Ok, donc quelle est, d'après vous, l'idéologie dominante aujourd'hui en matière de mœurs? C'est l'idéologie dite libertaire, l'idéologie libertaire qui est parfaitement résumée par ces slogans qui datent de mai 68. Par exemple, il est interdit d'interdire. Ou encore, jouissez sans entrave. Le mouvement social, en effet, des mois de mai et juin 68, 1968, a eu des répercussions profondes sur la morale de notre société et conditionne encore de nombreux débats aujourd'hui, à commencer par celui sur le fameux prétendu mariage pour tous, comme on peut le constater quand on assiste un petit peu, qu'on suit un petit peu ce qui se passe dans nos, à l'Assemblée et au Sénat ces jours-ci. En fait, après mai 68, et ni vous ni moi n'étions nés hein, en mai 68, mais après mai 68, pour bien comprendre l'état de la société aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé en France. Et quand on analyse l'histoire, on parle de cette période comme étant la période de la révolution sexuelle, inaugurée à la fin des années 60, qui a duré pendant les années 70 et 80. Cette révolution sexuelle s'est mise en marche, en effet, après mai 68. Qu'est-ce qui s'est passé? La contraception, par exemple, s'est libéralisée, s'est généralisée. L'avortement a été autorisé, c'était en 75. La pornographie s'est développée. L'homosexualité a été dépénalisée. La mini-jupe a été inventée pendant cette période, le bikini, etc., etc. Et quelle est l'idée fondamentale qui a dirigé et qui dirige encore, en fait, cette évolution de la société depuis mai 68? C'est l'idée selon laquelle l'être humain devrait rejeter toute subordination à une autorité objective et supérieure. Et en faisant cela, l'être humain pourrait assurer de manière absolue sa propre autonomie. Ça, c'est l'idéologie libertaire. On se débarrasse de toute autorité objective et supérieure, en tout cas de toute subordination à cette autorité, pour assurer sa propre autonomie. Je m'appartiens et je veux être libre de faire ce que je veux de ma propre personne. Ça paraît juste en plus. Je m'appartiens quand même. Et je peux faire ce que je veux quand même de ma propre personne. Oui, mais à en croire la Bible, cette attitude-là, que je viens de résumer en une phrase, n'est que pure folie. Pour une simple et bonne raison, c'est que dans la perspective biblique, l'homme est un être déchu, qui vit dans un monde déchu. Et par conséquent, l'homme ne peut pas et ne doit pas se fier à ses propres désirs, qui justement, parce qu'on est déchu, ne sont pas fiables et pourraient nous entraîner dans une direction qui nous serait néfaste. On a donc besoin d'être sauvé de notre propre, de nos propres désirs, de notre propre convoitise, de nos propres envies. Ces choses-là, d'après la Bible, enfantent le péché qui, à son tour, engendre la mort. Jacques 1, verset 15. Et non seulement a-t-on besoin d'être sauvé de cela, mais on a aussi besoin d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence en fonction d'une autorité objective, fiable et bonne. Et cette autorité, j'espère que je vous apprends rien aujourd'hui, c'est celle de notre concepteur, créateur, sauveur, maître et juge, le Dieu Tout-Puissant. Père, Fils et Saint-Esprit. On le sait, le Père a pourvu à notre délivrance en la personne de son Fils Jésus-Christ, mort pour nos offenses, ressuscité pour notre justification, et il a mis en nous, les croyants, la puissance de son Saint-Esprit qui œuvre en nous inlassablement pour nous conformer à ce que nous devrions être et à ce que nous sommes déjà à ses yeux d'ailleurs en Jésus-Christ. Et il veut le faire, et il fait cela inlassablement en nous pour notre plus grand bonheur et pour sa gloire. Ça, c'est la perspective biblique sur notre existence en tant que croyants. Donc, chers hommes et femmes, vous êtes des êtres sexués et sexuels. Sexués parce que vous êtes soit un homme, soit une femme, et sexuels. Et si vous voulez optimiser cette dimension de votre être, qui est caractéristique de votre personne, je vous invite donc à écouter attentivement tout ce qu'on va dire aujourd'hui. Parce qu'on va le puiser dans la parole même de Dieu, dans la Sainte Bible, révélation objective et fiable de la volonté de notre concepteur et créateur, et sauveur et maître et juge. Et ce qu'on va voir, sans surprise, je pense, c'est qu'à l'idéologie libertaire, eh bien, la Bible oppose la vraie liberté, celle qui consiste à être lucide quant à la vraie nature de nos désirs, et à suivre volontairement une autre voie que celle de nos désirs, à savoir la voie de Dieu, la voie VOIE, le chemin de Dieu, le chemin que Dieu nous présente, et qui est le chemin d'une sexualité réellement épanouie et réellement valorisée. Ce qui va à l'encontre de certaines idées reçues que le monde a par rapport au rapport entre les chrétiens et la sexualité. Alors, on parle, donc vous avez le plan là, on parle aujourd'hui de sexualité, vous l'avez compris, et pour commencer, on va considérer le cadre général que la Bible nous présente pour la sexualité. Et il est important que ces principes généraux soient clairs dans notre esprit avant que nous nous attachions à des questions plus spécifiques. Et donc, la première chose qu'il faut dire en ce qui concerne la sexualité, c'est que c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose de bon. Nous sommes des êtres sexués et sexuels depuis la création du premier homme et de la première femme. La sexualité, en tant que dimension de l'être humain, de l'existence humaine, n'est pas apparue après la chute ou avec la chute. La sexualité précède le premier péché. C'est ce qu'on voit d'après Genèse 1, 28 et 31, que je vais lire rapidement. Genèse 1, 28 et 31. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous. On est d'accord, ça implique des rapports sexuels. Ok. Remplissez la terre et soumettez-la. Okay. Et puis un peu plus loin, donc ça c'est avant la chute, verset 31. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Là, c'est la première fois dans le récit de la création que l'on a cette expression très bon. Jusque-là, c'était bon. Mais une fois que l'homme et la femme sont créés, et une fois que Dieu leur donne l'ordre de se multiplier, donc une fois que la sexualité, les rapports sexuels sont inventés par Dieu, Dieu vit tout ce qu'il a fait et il dit « ça c'est très bon ». Verset 31. Et donc le rapport sexuel entre un homme et sa femme fait partie du plan originel de Dieu. On est bien d'accord ? Dieu leur a d'ailleurs donné les attributs physiques pour que ce soit possible. Et lorsque Adam a rencontré Ève pour la première fois, il a été émerveillé. C'est vraiment la portée du texte biblique quand il voit sa femme, Genèse 2, verset 22-23, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et là, l'homme découvre ce que c'est qu'une femme. Et il dit, mais cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Il est émerveillé par ce qu'il voit. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Et tout de suite après ce verset emblématique, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Tout ça, c'est avant la chute, avant le premier péché. Et ce verset que je viens de lire, là, Genèse 2, verset 24, c'est un verset que Jésus et Paul ont cité dans le cadre de leurs enseignements sur le mariage. C'est-à-dire que c'est un verset vraiment emblématique pour ce qui concerne les relations conjugales. La sexualité, donc, c'est quelque chose de très bon. Ce n'est pas quelque chose de sale, de honteux ou d'anormal. D'accord ? Et dans le développement normal d'une personne, il y a la puberté, le développement des caractères, ce qu'on appelle les caractères sexuels primaires et secondaires, il y a l'apparition du désir, et tout cela est normal et bon, parce que c'est conforme à l'intention de Dieu, notre Créateur. Mais non seulement la sexualité est quelque chose de bon, c'est aussi quelque chose d'utile, puisque dès la création de l'homme et de la femme, on découvre que la sexualité a une fonction particulière, à savoir, eh bien, la procréation. Je ne vais pas le relire, le verset qui dit, où Dieu dit « Soyez féconds, multipliez-vous ». Genèse 1, 28. En tout cas, ça souligne cette fonction de la sexualité qui est intimement liée à la sexualité. Dans Genèse 4, verset 1, alors, on a vu la réaction de l'homme, d'Adam, quand il découvre Ève. Écoutez la réaction de Ève quand elle a son premier enfant. L'homme connut Ève, sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle est émerveillée. C'est la première fois que ça lui arrive et elle découvre cette fonction formidable de la sexualité. Et c'est tellement incroyable qu'elle, pour elle, c'est comme un miracle. Avec l'aide de l'Éternel, c'est une fonction que Dieu a attachée à la sexualité. Et tout au long du récit biblique, en fait, on va trouver cette expression, comme on la trouve un peu plus loin dans Genèse 4, 25. Un tel connut sa femme, et elle enfanta un tel, et l'appela du nom de un tel. C'est une expression qu'on retrouve encore et encore à de multiples reprises dans l'Ancien Testament notamment. Et on voit qu'il y a donc ce rapport, ce lien entre la sexualité et la procréation. La procréation fait partie en fait du mandat créationnel, hein, ce mandat que Dieu confie à Adam et Ève lorsqu'ils sont créés, lorsqu'il leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous ». Et puis la procréation fait aussi partie intégrante de la promesse de la descendance qui va libérer l'humanité. Puisque c'est bien au travers d'une descendance que le Messie doit venir pour écraser la tête du serpent. Donc, vous voyez, en promettant une descendance et en annonçant à l'avance que c'est par la descendance que le Messie va venir pour délivrer les hommes, eh bien Dieu est en train d'autoriser de façon solennelle la sexualité. Puisque la procréation implique la sexualité. Dieu met clairement le tampon de son approbation sur la sexualité, même après la chute. Donc la sexualité n'est pas seulement bonne en soi, elle est aussi utile. Elle sert une fonction importante, voulue par Dieu dans son plan. Et ça, c'est un point important que je passe quelques minutes là en ce moment à souligner, parce que ça veut dire que la sexualité n'a jamais existé dans le plan de Dieu, indépendamment du principe de la procréation. La sexualité n'a jamais existé pour le seul plaisir de l'individu, pour le seul plaisir individuel. Elle a toujours existé dans un cadre précis qui est celui d'une relation, la relation d'un couple composé d'un homme et d'une femme qui ont souhaité fonder une nouvelle unité familiale. C'est notamment pour cette raison que les relations homosexuelles sont interdites dans la Bible ou condamnées, parce qu'elles sont ainsi clairement dissociées du principe de la procréation, puisque qui dit relation homosexuelle dit impossibilité d'engendrer. Vous voyez la logique? Donc depuis le départ, les deux sont liés, et on verra tout à l'heure que ce n'est pas non plus indissociablement lié dans les faits, mais en tout cas, dans le principe, les deux sont liés, procréation et sexualité. Et c'est aussi ça qui explique en partie le point suivant, à savoir que la sexualité, c'est quelque chose d'exclusif. D'après Genèse 2, verset 24, qu'on a déjà lu, c'est avec sa femme que l'homme devient une seule chair. Et l'apôtre Paul développe cette idée dans 1 Corinthiens 7, versets 3 et 4, où il dit clairement qu'un des bienfaits du mariage, c'est d'être un remède à l'inconduite ou à l'immoralité sexuelle. Le mari doit l'intimité de son corps à sa femme. Il ne doit pas l'intimité de son corps à qui que ce soit d'autre qu'à sa femme. C'est une relation exclusive et bien sûr vice-versa. Mari et femme, d'après ce passage, ont autorité sur le corps de leur conjoint. Vous voyez, relation exclusive. Au verset 9 de ce passage, 1 Corinthiens 7, l'apôtre Paul est encore plus clair et il dit là, que rester célibataire, par exemple, c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais le célibat, dit-il, c'est la chasteté. Le célibat implique la chasteté. Et pour cette raison, d'ailleurs, le célibat est une condition qui est possible, qui n'est pas mauvaise en soi, mais qui est dangereuse. Parce qu'on a des désirs légitimes. Mais il y a aussi une façon légitime de satisfaire ces désirs. Et en dehors de cette façon légitime que Dieu a instituée, on n'a pas le droit, enfin, moralement, de satisfaire ses désirs. Donc, qui dit célibat, dit forcément chasteté. Toute relation sexuelle est réservée au cadre du mariage entre un homme et une femme. Alors, il y a des gens qui font remarquer qu'il y a de la polygamie dans l'Ancien Testament. C'est vrai. Même parmi certains héros de la foi. Mais à cette objection, il faut répondre deux choses. D'abord, il faut faire la distinction entre un texte narratif dans la Bible et un texte prescriptif. Ce n'est pas parce que quelque chose nous est raconté, comme s'étant passé dans la Bible, que forcément c'est quelque chose à imiter ou à reproduire. Un texte narratif n'est pas à interpréter de la même façon qu'un texte prescriptif. On est d'accord? Et deuxièmement, en règle générale, lorsqu'il y a polygamie dans l'Ancien Testament, ce n'est pas présenté sous un très beau jour, en fait. Et il suffit d'analyser les histoires pour se rendre compte que ça a des conséquences plutôt fâcheuses. Par exemple, Abraham qui cherche à forcer la main de Dieu en couchant avec la servante de sa femme, plutôt que de patienter par la foi. Ça a des conséquences fâcheuses, puisque c'est comme ça que Ismaël est né. Et Ismaël, c'est le père du monde arabe. Enfin, il y a encore des conséquences qu'on peut mesurer aujourd'hui. Hein. Jacob, il se retrouve marié un peu contre son gré avec deux femmes qui sont sœurs, Rachel et Léa. Mais sont terriblement jalouses l'une de l'autre. Et ça crée des disputes et des problèmes dans leur famille. Salomon, et ses nombreuses femmes et concubines qui ont détourné son cœur de l'Éternel, etc. La sexualité, donc, c'est quelque chose de bon, d'utile et d'exclusif. Dans le plan de Dieu, elle est réservée au mariage entre un homme et une femme, ce qui exclut donc à la fois les relations prénuptiales, mais aussi les relations adultères, c'est-à-dire extramaritales, et encore les relations homosexuelles. Mais pour être complet, il faut ajouter encore une chose en ce qui concerne le cadre général que nous présente la Bible pour la sexualité. C'est que d'après la Bible, la sexualité, c'est aussi quelque chose de corrompu. C'est quelque chose de corrompu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que la sexualité, en tant que dimension de notre être, nous sommes des êtres, rappelez-vous, hein, sexués et sexuels, mais la sexualité, en tant que dimension de notre être, est aussi atteinte par la chute, comme toutes les autres dimensions de notre être. Elle est aussi atteinte par la chute, et ça veut dire, d'une part, que notre sexualité peut faire l'objet de dysfonctionnements. Et oui, il existe de nombreux dysfonctionnements à ce niveau-là. Des dysfonctionnements aussi bien physiologiques que psychologiques. C'est un des effets de la chute appliquée à cette dimension de notre être. D'autre part, ça veut dire aussi que cette dimension de notre être constitue un terrain propice au péché, comme les autres dimensions de notre être. On peut pécher mentalement, on peut pécher émotionnellement, on peut pécher intellectuellement, on peut pécher spirituellement, on peut pécher physiquement, on peut aussi pécher sexuellement. Et puisque notre sexualité constitue aussi une dimension de notre être qui a été touchée par la chute, eh bien, à cause de ça, il y a eu parfois dans l'Église chrétienne l'idée selon laquelle l'abstinence totale serait la plus suprême des vertus. Et c'est de là qu'est venue cette culture que l'on rencontre peut-être encore aujourd'hui dans certains milieux, cette culture de la sexualité comme étant quelque chose de sale, de honteux, ou en tout cas quelque chose peut-être de tabou, un peu comme un mal nécessaire. Alors la sexualité existe, oui, parce que bon, on en a besoin, mais bon, l'idéal, ce serait quand même une vie de chasteté, d'abstinence. Ça, c'est une vie vraiment spirituelle, vous voyez ce que je veux dire. Il existe un peu cette culture, tout simplement parce que la sexualité est en effet un terrain propice au péché. Mais il ne faut pas jeter, évidemment, le bébé avec l'eau du bain. C'est en réalité, là, une perception déséquilibrée de la sexualité. On l'a vu, et je le rappelle, la sexualité en tant que dimension de l'être humain précède la chute de l'être humain. Elle précède le premier péché. C'est quelque chose fondamentalement qui est bon, très bon même, et utile, réservé certes à un cadre précis, mais qui a été touché, comme tout le reste, par la chute. D'où la nécessité, non pas de tout rejeter en bloc, mais en tant que croyant, notamment d'être vigilant et d'avoir une éthique mûrement réfléchie à ce sujet, au sujet de la sexualité. Et c'est ce qu'on essaye de développer cet après-midi. Et c'est ce qui nous amène au point suivant. Grand 2. On a dit que la sexualité était réservée au cadre du couple marié composé d'un homme et d'une femme. Alors, puisque la sexualité est quelque chose de bon, d'utile et d'exclusif, est-ce que ça veut dire que derrière la porte close de la chambre à coucher, le couple marié peut faire tout ce qu'il veut ? Rassurez-vous, je ne vais pas entrer dans le détail cet après-midi. Mais je voudrais seulement vous livrer quelques principes généraux dont je vous laisserai ensuite tirer les applications vous-même. Et il y a un principe fondamental, d'ailleurs, qui ne s'applique pas seulement à la sexualité. Ce principe fondamental, c'est le suivant. Dans la limite de la loi morale de Dieu, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Dans la limite de la loi morale de Dieu, tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est ce que dit Paul dans la première épître aux Corinthiens à deux reprises, au chapitre 6 et au chapitre 10. Il faut être conscient, comme on vient de le dire, que notre sexualité est touchée par le péché. Bon. Il faut être conscient qu'il ne suffit pas, du coup, il ne suffit pas de se marier et ensuite de s'enfermer dans la chambre avec son conjoint pour que notre sexualité se retrouve instantanément et complètement sanctifiée. Ça ne marche pas comme ça. Nous continuons, même une fois mariés, et même dans le cas d'une relation exclusive avec son conjoint, nous continuons d'être animés de mauvais désirs. Nous continuons d'être caractérisés par de mauvais comportements. C'est notre nature pécheresse, elle n'est pas effacée d'un coup, instantanément, comme ça, comme par magie, juste parce qu'on est passé devant le maire. Et la loi morale de Dieu dénonce et condamne certaines choses. Comme par exemple l'ingérence d'un tiers dans la chambre à coucher, bien sûr, mais même en pensée, puisque Jésus dit que la convoitise du cœur est équivalente à un adultère. La loi morale de Dieu dénonce et condamne également les comportements égoïstes qui peuvent très bien s'infiltrer et s'ingérer dans la chambre à coucher dans le cas d'une relation exclusive, d'un homme et d'une femme mariés. Ce sont des exemples de choses que la loi morale de Dieu condamne et qui s'appliquent, et qui a des, comment dire, qui aurait des répercussions, en tout cas dans le cadre de la sexualité d'un couple marié. Alors la loi morale de Dieu impose donc certaines limites, et elle le fait souvent de façon explicite. Il y a une exigence au niveau de notre comportement, au niveau de notre attitude, au niveau de nos pensées, au niveau de nos motivations, au niveau de nos paroles. Nous devons, en tant que croyants, nous devons être chrétiens même dans la façon dont nous consommons notre mariage avec notre époux ou épouse légitime. D'accord? On doit être chrétien jusque dans la chambre à coucher. Et ça va se traduire par des choses manifestes. Mais la Bible ne parle pas de tout ce qui est imaginable en termes de pratique entre un homme et une femme mariée. Et beaucoup de couples chrétiens se demandent, et ça, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on a le droit? Et c'est là qu'intervient ce deuxième principe. Tout n'est pas utile. Je crois personnellement, et on pourra en discuter après, hein, il y aura un moment de questions, si le temps le permet. Je crois personnellement, surtout à la lecture du Cantique des Cantiques, que les époux chrétiens ont une grande liberté en ce qui concerne ce qui se passe dans l'intimité de leur chambre à coucher. Mais encore une fois, tout n'est pas utile. Et lorsque Paul énonce ce principe dans 1 Corinthiens 6 et 10, Paul, il est en train de, dans ce contexte, il est en train de réfléchir à un sujet en particulier qui est la question de la consommation des viandes qui ont été sacrifiées à des idoles. Et il y a deux choses qui orientent la pensée de Paul sur cette question. D'abord, il ne veut pas que les chrétiens, sous prétexte de liberté, se retrouvent asservis à quoi que ce soit. Il ne veut pas que les chrétiens, sous prétexte de liberté, se retrouvent asservis par quoi que ce soit, par quelque pratique que ce soit. Et la deuxième chose qui oriente sa pensée sur cette question, c'est qu'il ne veut pas que les chrétiens heurtent la conscience des autres chrétiens. Et ces deux principes, quand on les applique à la sexualité, ça veut dire que les époux doivent eux-mêmes, ensemble, réfléchir et communiquer au sujet de leur sexualité. Bien sûr, la communication est un aspect très très important de la relation d'un couple, dans tous les aspects de la vie du couple, mais notamment dans le cadre de leur sexualité. Ils doivent réfléchir, communiquer au sujet de leur sexualité pour s'assurer qu'ils ne sont pas en train de s'asservir à quoi que ce soit en termes de pratique. Et de s'assurer également que tout ce qu'ils font, ils le font dans le respect de l'autre. Pour ne pas heurter le frère ou la sœur qu'est le mari ou la femme. Frères et sœurs en Christ, bien sûr. La sexualité chrétienne est censée être une sexualité tournée vers l'autre, au service de l'autre. L'amour sacrificiel, dont on parle beaucoup dans la relation d'un couple en général, se manifeste aussi dans la sexualité. Le désir de chaque époux devrait être de servir l'autre et non pas soi-même. Et dans ce service mutuel, il y a une grande joie, il y a beaucoup de plaisir, et Dieu est glorifié. Dieu est glorifié. Donc la loi morale de Dieu impose des limites explicites. Dans ces limites, il y a une grande liberté. Et cette grande liberté, cette grande liberté doit être modérée par le fait que tout n'est pas utile et que tout n'édifie pas. Et c'est aux époux d'y réfléchir pour ce qui les concerne en particulier. Mais il y a peut-être un autre élément à ajouter qui devrait guider la réflexion des époux. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20. 19 et 20, que je vais lire rapidement. Mais toujours dans ce même contexte, hein, 1 Corinthiens 6, où il dit que tout est permis mais tout n'est pas utile. Voici ce qu'il dit, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps a été racheté à grand prix. Notre corps appartient à Dieu. Et la conclusion, l'application de tout ça que fait Paul, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Cette exigence signifie que derrière la porte close de la chambre à coucher, les époux doivent avoir conscience que la sexualité selon Dieu doit tendre à glorifier le Créateur de notre corps et non pas à dégrader ou à pervertir son œuvre, l'œuvre de notre Créateur. La sexualité implique le corps, hein, je vous apprends rien. Le corps appartient à Dieu. La question c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce corps qui appartient à Dieu ? Et qui a été racheté à grand prix, et qui est le temple de la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. C'est un point important parce qu'aujourd'hui, si vous lisez des ouvrages de sexologie écrits par des non-croyants, si vous avez été dans le passé exposé à certains films, ou à certaines images, voire même à de simples publicités, ou des émissions de radio ou de télévision, vous avez peut-être intériorisé une conception de la sexualité qui n'est pas animé par la recherche de la gloire de Dieu et par conséquent qui n'intègre pas la notion du corps humain comme étant l'œuvre de Dieu et qui par conséquent va peut-être admettre comme comportement ou pratique légitime des choses qui en fait sont dégradantes pour l'être humain et parce qu'elles sont dégradantes pour l'être humain, elles sont déshonorantes pour le créateur de l'être humain, pour Dieu. Vigilance donc, réflexion et communication au sein du couple, et bien sûr il existe aussi des ouvrages spécialisés écrits par des chrétiens qui peuvent vraiment nous aider, si nous sommes mariés, nous aider à y voir plus clair dans ce domaine. J'en viens maintenant à trois grandes questions qui touchent à la sexualité et qui ont fait l'objet de grands débats depuis quelques décennies. Ces trois grandes questions sont les points 3, 4 et 5. La question de la contraception, ensuite de l'avortement et enfin de la procréation assistée. Alors on commence avec la contraception. La question est la suivante. Dieu permet-il aux chrétiens d'utiliser des moyens de contraception? Tout ce que je dis là, bien sûr, c'est sous-entendu dans le cadre d'un couple marié composé d'un homme et d'une femme. On est bien d'accord, j'ai pas besoin de le répéter. Comme vous pouvez l'imaginer, la réponse à cette question n'est ni oui ni non, puisque le sujet est plus complexe que ça, et elle ne se résume pas à cette seule question. Le sujet ne se résume pas à cette seule question. Alors on va essayer d'y voir plus clair, mais d'abord je voudrais qu'on s'intéresse à une question plus fondamentale. Est-il légitime de dissocier la procréation de l'acte conjugal ? Autrement dit, la sexualité peut-elle avoir une autre raison d'être que juste l'enfantement ? Tout à l'heure, je disais que la sexualité, dès le départ, était attachée en principe, en tout cas au principe, de la procréation. La première mention qu'on a, la première allusion qu'on a à la sexualité dans la Bible, c'est quand Dieu dit « Soyez féconds, multipliez-vous ». D'accord ? Mais la sexualité peut-elle avoir une autre raison d'être que juste l'enfantement dans les fêtes ? Et à cette question, je pense que la Bible répond oui. Alors peut-être que vous ne serez pas d'accord, on pourra en discuter. Je pense personnellement que le Cantique des Cantiques est à la base un poème érotique inspiré par le Saint-Esprit, où l'idée principale de ce texte, de ce poème, est la célébration de l'amour entre un homme et sa femme, dans le cadre d'un mariage devant Dieu. Cet amour entre l'homme et la femme, dans le Cantique des Cantiques, s'exprime en paroles, il s'exprime en sentiments, mais il s'exprime aussi en actes intimes. Il n'y est pas question d'enfantement. Le Cantique des Cantiques, c'est la description poétique de la consommation physique du lien du mariage. Et il est intéressant d'ailleurs de remarquer que dans ce fameux verset emblématique que l'on attache souvent au mariage, qu'on lit dans tous les mariages, Genèse 2, verset 24, que Paul et Jésus ont cité lorsqu'ils ont donné des enseignements sur le mariage. Il n'y est pas dit dans ce verset « L'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et ils auront des enfants ». Qu'est-ce qui est dit dans ce verset ? Il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Point. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que sur le principe, la Bible permet d'envisager la sexualité comme n'étant pas toujours destinée à faire des enfants, mais comme pouvant être aussi tout simplement la célébration ou la consommation de l'amour entre un homme et une femme mariée. L'expression peut être ultime au niveau physique, au niveau intime de l'amour entre un homme et une femme. Une expression de cet amour, une célébration de cet amour qui rend gloire à Dieu. C'est comme un culte dans la chambre à coucher. Un culte rendu à Dieu. Bien sûr, dans le cadre d'une chambre close. Alors cette position-là que je viens de vous décrire n'est pas exactement celle de l'Église catholique, qui affirme officiellement, par le biais de son catéchisme, que la procréation ne doit jamais être dissociée de l'acte conjugal. Ce qui veut dire, d'après le catéchisme de l'Église catholique, que le seul moyen légitime d'éviter une grossesse, c'est soit l'abstinence, soit le fait, qui implique l'abstinence, le fait de respecter scrupuleusement le calendrier biologique de la femme. Toute forme de contraception est donc interdite dans l'Église catholique, officiellement, hein, officiellement. Mais selon moi, cette position va plus loin que ce que dit la Bible. Et elle n'intègre pas le principe qu'on vient de voir, selon lequel la sexualité, dans le cadre d'un couple marié, glorifie Dieu indépendamment de la question de la procréation. Un peu comme le plaisir des papilles quand on mange, glorifie Dieu indépendamment de la question de l'alimentation, de la question du fait qu'il faut manger pour vivre. Alors oui, bien sûr, on doit manger pour vivre. Il se trouve que manger pour vivre, c'est agréable. Mais parfois, on mange, et pas pour vivre. On mange parce qu'on a un bon repas, on va au restaurant pour fêter un anniversaire de mariage, par exemple. Et on va payer un peu plus cher pour la gloire de Dieu, parce qu'on va savourer des bons plats. Et s'il s'agissait juste de s'alimenter, on pourrait aussi bien manger des sandwichs à la maison. Vous voyez ce que je veux dire ? La haute cuisine glorifie Dieu, mais la haute cuisine n'existe pas juste pour l'alimentation des gens. C'est un peu comme ça, si je me permets ce parallèle avec la sexualité. Nous devons donc reconnaître sur la question de la contraception le silence de la Bible. Et ne pas combler ce silence par des idées qui viennent des hommes. Et c'est ce dont les pharisiens se sont rendus coupables en fait. Ils enseignaient comme loi de Dieu des choses qui n'étaient que des coutumes humaines, des traditions humaines. Donc quand la Bible est silencieuse, il faut qu'on résiste à la tentation de combler ce silence par des idées qui nous sont personnelles, ou qui sont le fruit de nos réflexions personnelles. Et il faut ajouter une chose, c'est que si la Bible est silencieuse sur la contraception, ce n'est pas parce que les techniques de contraception n'existaient pas à l'époque où la Bible a été écrite. Parce qu'en réalité, elles existaient. On sait par exemple qu'en Mésopotamie, 1500 ans avant la naissance de Jésus, donc à une période où il y avait la communication entre la Mésopotamie et le peuple hébreu, eh bien on savait par exemple, je ne vais pas vous faire un dessin, mais que les femmes utilisaient des pierres pour faire obstacle à la semence de l'homme. On sait aussi qu'en Égypte, on avait déjà inventé le préservatif qu'on fabriquait avec des boyaux de chat. Ça existait. Et ces moyens de contraception mécaniques existaient à l'époque des prophètes, de Jésus et des apôtres. Et pourtant, la Bible ne dit rien d'explicite à ce sujet. Bon, le silence est là. On ne va pas en tirer des conclusions, ni dans un sens, ni dans l'autre. Mais en tout cas, il ne faut pas combler ce silence par nos propres idées. Et ensuite les enseigner comme loi de Dieu. Alors, comment se faire un avis sur la question? Eh bien, je pense qu'on doit aborder la question sous deux angles indispensables et qui se complètent. D'abord, le problème des techniques de contraception. Et ensuite, on verra le problème des motivations de ceux qui aimeraient avoir recours à la contraception. D'accord? D'abord, le problème des techniques. Certaines techniques de contraception posent clairement problème en elles-mêmes, à la lumière de la Bible, parce que ce sont des techniques abortives. Autrement dit, ce sont des techniques qui empêchent intentionnellement l'implantation d'un œuf fécondé. Pour le dire encore autrement, ce sont des techniques qui provoquent des fausses couches précoces, c'est-à-dire la mort d'un embryon. Pourquoi est-ce que ça pose problème? Parce que dès la fécondation d'un œuf, c'est-à-dire au moment de la rencontre entre l'ovocyte de la mère et le spermatozoïde du père, eh bien à ce moment-là, dès ce moment-là, toute l'information génétique du nouvel être humain est réunie. Elle est réunie en une ou deux cellules, mais elle est là. Et tout le potentiel de cette nouvelle personne est réuni dans ce petit amas de cellules qu'on appelle un zygote, ou une zygote, je ne sais pas. Et ce potentiel qui existe et qui est réuni, il ne lui reste plus qu'à se déployer et à se développer. Et fondamentalement, ce qui se passe dans l'utérus d'une femme, quelques mois avant la naissance, l'accouchement, et quelques mois après, n'est pas différent. Dans les deux cas, le bébé a besoin d'être nourri, a besoin d'évacuer ses excréments, et il est en train de se développer. La relation de dépendance entre le bébé et sa maman n'est pas fondamentalement différente entre avant la naissance et après la naissance. Si personne ne fait rien pour le pauvre bébé après la naissance, il va mourir. Il a encore besoin d'être nourri, et protégé, et soigné, et nettoyé, etc. Et c'est pourquoi la Bible fait remonter la dignité de la vie humaine jusqu'à la conception. Et on va y revenir dans un petit moment à cette idée quand on va parler de l'avortement. Et donc, moi je ne suis pas un spécialiste, je vous renvoie vers Maïlis, vers Sephora, vers Garrett qui a étudié la médecine et vers d'autres qui seraient mieux placés que moi pour vous en parler. Mais parmi ces techniques de contraception qui ont un effet abortif, il y a aussi bien des moyens de contraception chimiques, comme certaines pilules, mais aussi des moyens de contraception mécaniques, comme par exemple le stérilet. Et notre devoir en tant que chrétien, par rapport à ces moyens qui existent, par rapport à ces techniques, vous savez, il en existe beaucoup, hein, avec des variants, tout ça, notre devoir en tant que chrétien, c'est d'abord de nous renseigner, pour savoir qu'est-ce que ça représente en fait, comment ça agit, qu'est-ce que ça réalise dans mon corps, enfin, dans le corps des femmes. Les techniques qui empêchent la fécondation, en revanche, qui empêchent la rencontre entre la cellule de l'homme et celle de la femme, elles ne présentent pas ces techniques a priori, je dis bien a priori, du fait de comment ça marche, de problème moral. Mais en tout cas, celles qui provoquent intentionnellement la mort d'un embryon sont, à mon avis, à exclure. L'abstinence est aussi un moyen de contraception, enfin, au sens large. Et c'est évidemment une bonne solution que Paul encourage même, l'apôtre Paul, dans certaines circonstances, comme on le voit dans 1 Corinthiens 7, verset 5. Mais quand il encourage l'abstinence, quand il dit qu'il est bon parfois à un homme et une femme de ne pas être ensemble, il ajoute un avertissement. Il dit « Mais attention que ça ne dure pas trop longtemps, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Et il faut savoir que c'est justement pendant la période d'ovulation que le désir de la femme est le plus grand. Et je me souviens avoir lu quelque part, je ne sais pas si c'est vrai, d'après certaines études, il paraît que dans le cadre d'un couple stable où le mari et la femme se connaissent bien, le désir de l'homme augmente aussi, mystérieusement, au moment de l'ovulation de sa femme. Mais si on ne veut pas avoir d'enfant, c'est justement à ce moment-là qu'il faut s'abstenir. Vous voyez le danger, quelque part, et le réalisme de Paul. Attention, que Satan ne vous tente par votre incontinence. L'abstinence, ok, donc, mais attention. Ça, c'est pour résumer l'enseignement biblique sur la question. Il existe aussi, bien sûr, des techniques radicales de contraception, qu'on appelle des techniques de stérilisation. Et ça, ce sont des procédures chirurgicales qui ont un effet permanent et qui sont très difficilement réversibles. Pour ne pas dire, parfois, elles sont totalement irréversibles. Et à ma connaissance, ces procédures-là, mais encore une fois, je parle sous le couvert de ceux qui seraient mieux placés que moi, à ma connaissance, ces procédures ne provoquent pas la mort d'embryon. Mais ce sont des procédures dont l'effet est permanent et donc qui vont soulever la question des motivations. Et c'est justement le point suivant, les motivations. Pourquoi employer la contraception? Pourquoi peut-être aller jusqu'à décider de ne plus jamais avoir d'enfant, puisque c'est ça la stérilisation? Alors il peut y avoir toutes sortes de raisons. Et je ne vais pas faire ce qu'on appelle de la casuistique, c'est-à-dire passer en revue toutes les situations imaginables pour vous dire que dans tel cas c'est ok, dans tel cas c'est pas ok, et puis s'il y a ça, ça va, s'il y a ça, ça va pas, on pourrait y passer des semaines. Non, comme je l'ai fait jusqu'à présent, je voudrais plutôt vous donner un principe biblique qui devrait guider notre réflexion à chacun dans ce domaine. Et ce principe, c'est le suivant. Avoir des enfants, et même beaucoup d'enfants, c'est une chose positive dans la Bible. C'est simple. Je vais vous lire des versets, deux, trois versets si vous ne me croyez pas. J'ai dit une chose positive, je n'ai pas dit une chose obligatoire. Hein. J'ai dit une chose positive, c'est présenté positivement dans la Bible. Voici que des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un héros, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils n'auront pas honte quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Ça, c'est un passage tiré d'un des psaumes, un des cantiques des montées sur lesquels je suis en train de prêcher. J'aurai l'occasion de prêcher sur celui-ci dans deux ou trois semaines, je ne sais plus quel est le calendrier exactement des prédications. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de cette série de psaumes qu'on appelle les psaumes démontés, c'est la première béatitude. Et une béatitude, c'est quand l'auteur dit « heureux un tel ou un tel ». C'est la première béatitude. La première béatitude dans cette série, « heureux l'homme qui a plein d'enfants ». C'est ça qu'il veut dire. « Heureux l'homme qui a plein d'enfants ». Donc, tout ça pour vous convaincre que avoir des enfants, et beaucoup d'enfants, c'est une chose qui est présentée comme étant positive dans la Bible, d'accord? C'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Mais encore une fois, j'ajoute, la Bible ne dit pas c'est une obligation, c'est pas une obligation morale, mais c'est présenté comme une bénédiction. Et donc, en réfléchissant à la contraception, chaque couple chrétien est responsable d'examiner ses motivations devant Dieu, sachant que la sexualité et l'enfantement, dans le cadre de leur couple, ont pour but la gloire de Dieu. Et si je choisis délibérément, par l'usage de la contraception, de ne pas enfanter, pourquoi? Est-ce que c'est par souci égoïste ou matérialiste? Par exemple, je préfère rester libre le plus longtemps possible, profiter de la vie, ne pas m'encombrer d'enfants. Je préfère poursuivre ma carrière, emmagasiner de l'argent. Peut-être moi et ma femme, on peut travailler ensemble pendant peut-être encore 10-12 ans. On va emmagasiner de l'argent, assurer notre avenir. Ou bien, si je choisis d'utiliser la contraception et donc par conséquent de ne pas enfanter, et que ce soit donc une intention délibérée, est-ce que ce serait plutôt par souci altruiste ou par souci même spirituel, j'ai envie de dire, par exemple, la santé de ma femme, par souci pour elle, par amour pour elle, peut-être qu'il vaut mieux utiliser la contraception et ne pas enfanter. En tout cas, pas maintenant, pas tout de suite, pour son bien. Ou peut-être parce qu'on sait qu'on va déménager dans 9 mois. Ce ne serait pas le moment, peut-être, d'avoir un enfant à ce moment-là. Donc on peut peut-être prendre des mesures, mais pas par souci égoïste ou matérialiste, par souci altruiste et spirituel, c'est-à-dire en recherchant la gloire de Dieu. Je pense que c'est possible d'utiliser la contraception pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas, on peut en discuter. Et il faut savoir, bien sûr, en même temps, et modérer tout ça en se rappelant que tomber enceinte, c'est loin d'être automatique. C'est loin d'être automatique. Et même au-delà d'un certain âge, ça devient plus difficile. Enfanter, donc, c'est un privilège. C'est une bénédiction d'après la Bible d'avoir des enfants. Il ne faut surtout pas l'oublier. Alors il y a quand même un texte qui est parfois invoqué pour condamner le principe de la contraception. C'est un petit passage dans la Genèse où il est question d'un certain Onan, dont il est dit ceci. Genèse 38, versets 8 à 10. Dans certaines publications d'origine catholique, vous allez parfois trouver ce texte qui est invoqué comme justification pour interdire la contraception. Alors Judas dit à Onan, va vers la... Alors, je lis un verset avant. Er, premier-né de Judas, était mauvais aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, épouse-la, comme beau-frère, et suscite une descendance à ton frère. Onan, sachant que cette descendance ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de descendance à son frère. Ce qu'il faisait était mauvais aux yeux de l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors ce que fait Onan dans ce texte, c'est effectivement une forme de contraception. Mais ce qui est condamné dans le texte, au verset 10, quand il est dit « ce qu'il faisait était mauvais aux yeux de l'Éternel », ce n'est pas la contraception en soi qui est mauvaise, mais le fait qu'il manquait délibérément à son devoir en tant que frère du défunt. D'après l'Ancien Testament, ce devoir consistait, pour le frère de quelqu'un qui serait mort avant d'avoir eu des enfants, consistait pour son frère à prendre la veuve pour femme et de lui donner une descendance, mais qui ne serait pas considérée comme la descendance du deuxième mari, mais comme la descendance du mari défunt. Vous avez suivi ? C'était un devoir très important pour assurer la descendance de ceux qui seraient morts trop jeunes pour avoir des enfants. Et en l'occurrence, donc, ce texte ne condamne pas l'acte d'Onan en soi, mais le texte condamne la motivation, justement. La motivation qui était derrière l'usage, si j'ose dire, de ce moyen de contraception. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette partie sur la contraception ? Premièrement, qu'il est légitime d'avoir une sexualité parfois déconnectée de la procréation. Deuxièmement, qu'en termes de contraception, il faut examiner à la fois la technique et la motivation pour s'assurer que quoi qu'on fasse, on le fasse bien, en conformité avec la loi morale de Dieu et pour sa gloire. Ok ? Maintenant, on passe à la question de l'avortement. Je vais essayer d'accélérer un tout petit peu. Le nombre d'interruptions volontaires de grossesse en France, IVG, est d'un peu plus de 200 000 par an, ce qui représente à peu près un avortement pour toutes les trois naissances. Donc l'avortement, c'est pas un phénomène rare ou marginal. L'avortement a été et continue d'être au cœur de violentes polémiques. Et en fait, les mentalités et les lois concernant l'avortement ont évolué de façon spectaculaire au cours des 35 dernières années. Jusqu'en 1975, l'avortement était considéré par la loi française comme un crime. Jusqu'en 1975. En 1975, l'avortement volontaire est devenu légal à condition qu'il soit pratiqué dans un délai de 10 semaines. Et ce délai était allongé à 12 semaines en 2001, en France. Et entre-temps, les conditions d'accès à l'avortement ont été considérablement assouplies pour les jeunes filles, notamment mineures, qui n'ont même plus l'obligation d'informer leurs parents. Dans d'autres pays d'Europe, comme aux Pays-Bas, en Espagne, en Grande-Bretagne, le délai légal de recours à l'IVG a été allongé à 22 semaines de grossesse. Tout cela nous est présenté, enfin, dans la plupart des médias, comme une formidable avancée sociétale. Et rappelez-vous encore une fois ce que je disais en introduction. La pensée dominante, depuis mai 68, c'est quoi ? C'est l'idéologie libertaire. Je fais ce que je veux de ma propre personne. Et donc, dans ce contexte, on peut voir la logique. Si cette grossesse m'ennuie, ben pourquoi pas juste y mettre un terme ? C'est de moi dont il s'agit. C'est ma grossesse, c'est mon ventre, je fais bien ce que je veux. Okay. Alors, je n'ai pas le temps d'examiner en détail tous les enjeux de la question, mais il y a deux principes bibliques fondamentaux que je tiens à rappeler sur cette question. Et ces deux principes, on les tire du psaume 139, à travers des versets, encore une fois, qui sont emblématiques. D'abord, versets 13 et 14. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Premier principe, tout être humain est l'œuvre de Dieu. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Tout être humain est l'œuvre de Dieu. C'est là le fondement de la dignité humaine en réalité, d'après la Bible. L'homme a une valeur exceptionnelle, pourquoi ? Pas parce qu'il est supérieur aux animaux, mais parce qu'il est l'œuvre de Dieu, le chef-d'œuvre de Dieu, le couronnement de sa création. Dieu est l'auteur de l'être humain, il est le créateur, le concepteur de l'être humain. C'est Dieu qui vous a fabriqué, comme il m'a fabriqué. Mais ça, c'est évidemment pas ce que les gens pensent aujourd'hui. Les gens pensent que les hommes sont des êtres formidables, mais pas parce que Dieu les a créés. C'est comme si on se promenait au musée du Louvre et qu'on s'extasiait devant le tableau de la Joconde. Quel magnifique tableau! C'est juste magnifique, c'est parfait, c'est super. Et là, on se tourne vers le conservateur du musée pour lui dire « Je vous félicite, elle est magnifique cette œuvre. Vous êtes trop fort, magnifique la Joconde !» En oubliant que ce n'est pas du tout le conservateur du musée qui a peint ce tableau, c'est évidemment Léonard de Vinci. Et vous voyez, c'est un peu l'attitude aujourd'hui. L'homme, mais c'est un être merveilleux, l'être humain. Et on oublie que son créateur, c'est le Dieu Tout-Puissant. On va se féliciter nous-mêmes d'être de belles créatures, enfin de belles créatures, de beaux animaux. Mais quand on reconnaît que nous sommes qu'on est la propriété intellectuelle de Dieu, ça veut dire non seulement que tout le mérite de ce que nous sommes lui revient exclusivement, mais ça veut dire aussi que Dieu a l'autorité sur notre vie. Il a l'autorité sur notre vie dès le moment où lui nous conçoit et nous façonne. C'est lui qui forme nos reins, c'est lui qui nous tient cachés dans le sein de notre mère. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, nous n'appartenons même pas à notre maman. Nous appartenons à Dieu qui est en train de nous façonner. Le bébé qui est en train d'être formé dans le ventre de sa maman appartient à Dieu. Ce bébé, ce n'est pas l'œuvre de la maman, mais l'œuvre de Dieu. Parce que la maman elle-même est l'œuvre de Dieu, et tous les mécanismes de son corps le sont aussi. Beaucoup de féministes, au sujet de l'avortement, réclament le droit de faire ce qu'elles veulent de leur corps. C'est vrai ? C'est ça l'argument principal. Hein ? Mais vous voyez déjà que cette affirmation, cette revendication, s'inscrit dans une perspective qui n'est pas celle de la Bible, tout simplement. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe fondamental relatif à cette question de l'avortement se trouve dans les deux versets suivants du psaume 139, versets 15 et 16, où il est dit ceci. « Mon corps n'était pas caché devant toi, lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés, avant qu'aucun d'eux existe. » Ce deuxième principe, c'est le suivant. Tout être humain compte pour Dieu, même avant de naître. Tout être humain compte pour Dieu, même avant de naître. Qu'est-ce qu'il dit le psalmiste ? Il dit que son corps n'était pas caché devant Dieu, lorsqu'il était encore dans le ventre de sa mère, lorsqu'il était encore qu'une masse informe, qu'un amas de cellules. Son corps n'était pas caché devant Dieu. Les yeux de Dieu le voyaient. Toute sa vie était déjà inscrite dans le livre de Dieu. Ce que le psalmiste est en train de dire ici, c'est que même avant sa naissance, il était l'objet de l'attention et de l'affection de Dieu. L'être humain qui n'est pas encore né et qui n'est qu'un minuscule agrégat de cellules, ce petit chose que personne d'autre ne peut voir, compte pour Dieu. Il compte pour Dieu. Imaginez que vous soyez un écrivain de best-seller et tous les ans vous publiez un nouveau roman qui a exigé de votre part des heures et des heures de travail, de concentration, d'efforts intellectuels. Et ce jour-là, vous venez de finir de taper sur votre ordinateur le texte de votre prochain roman. Et vous vous apprêtez à l'envoyer à l'éditeur. Mais catastrophe ! Vous renversez sur votre ordinateur votre tasse de café. Court-circuit, ordinateur HS. Perte irrémédiable de votre texte, parce que vous n'avez pas pris soin de le sauvegarder. Et est-ce que vous vous dites à ce moment-là, c'est pas grave. C'est pas vraiment une perte, puisque le livre n'était pas encore imprimé. Bien sûr que non, vous ne dites pas ça. Même avant sa sortie, même avant sa publication, même avant son impression, ce livre ce roman comptait pour vous. De la même façon que les bébés qui sont encore en train d'être formés dans le ventre de leur maman comptent pour Dieu. Dès le moment de la conception, nos enfants existent aux yeux de Dieu. Ils ont une dignité aux yeux de Dieu. Dieu les voit. Dieu s'occupe d'eux. Dieu est en train de tisser ensemble les fibres de leur corps. Et tous les jours de leur vie sont déjà inscrits dans le livre de Dieu. Vous voyez, la vision biblique nous impose de considérer les bébés qui ne sont pas encore nés comme des êtres vivants, des êtres humains, possédant une dignité égale à la nôtre, comme des objets de l'attention et de l'affection de Dieu. C'est pour ça que nous disons parfois de façon un peu réductrice, un peu simplificatrice, mais pourtant c'est vrai, le fœtus est un être humain. Le fœtus est un être humain. C'est là précisément tout l'enjeu de la question de l'avortement, en fait. C'est cette considération-là, c'est cette idée-là, cette doctrine, j'ai envie de dire, qui change tout. Cette vérité qui fait que notre approche de la question de l'avortement ne peut pas être juste pragmatique. Ça ne peut pas être juste pragmatique, parce que c'est un enjeu de la plus haute importance, puisque l'on parle de vie humaine. On ne parle pas juste de questions de confort ou d'inconfort pour un couple ou une femme. On parle de vie humaine. Et les lois qui sont votées ici dans notre pays ou dans d'autres pays, les lois relatives à cette question sont aussi de la plus haute importance pour cette raison. On en parlait un peu d'ailleurs hier au groupe de jeunes adultes. Et on faisait des rapprochements avec le combat qui a amené à l'abolition de l'esclavage. C'est un combat si important parce qu'il était question de vie humaine. Mais de même, les débats sur l'avortement sont extrêmement importants parce que l'enjeu, c'est aussi un enjeu de vie humaine. Rendez-vous compte, la France a perdu 600 000 vies pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais pendant les 30 dernières années, c'est 6 millions de Français qui ont été tués en toute légalité. Depuis que l'IVG est autorisée dans notre pays, c'est un drame. Et c'est de plus en plus tous les ans. Alors on en vient au problème fondamental. Qu'est-ce qui incite les gens à vouloir avorter ? Les études sur les raisons qui poussent les femmes à demander un avortement, ces études-là sont très rares en fait. Mais il en existe une qui a été faite au début des années 2000 aux États-Unis et qui révèle, tenez-vous bien, que 99,16% des avortements demandés sont répertoriés comme avortements pour raisons personnelles, avec des raisons qui sont les suivantes. Ce n'est pas le moment. En ce moment, je peux pas me permettre un enfant. Je ne voudrais pas être une mère célibataire. J'ai des problèmes de couple. Un bébé bouleverserait ma formation. Mes autres enfants sont déjà grands. Je ne voudrais pas que d'autres sachent que je suis enceinte. Ou encore, mon mari ou mon ami ou mes parents voudraient que j'avorte. Les raisons invoquées qui s'appuient sur un risque pour la santé de la mère, ou sur des suspicions de malformation chez l'enfant, ou encore sur le fait que la grossesse serait le résultat d'un viol ou d'un inceste, représentent un pourcentage infime. Infime. Vous faites la soustraction, 100 moins 99,16. Voilà le pourcentage de ces raisons-là. Et évidemment, c'est une étude qui a été faite aux États-Unis, mais c'est dans un pays similaire au nôtre, un pays industrialisé, développé, avec un accès à la médecine relativement équivalent, des conditions de santé relativement équivalentes. Donc on peut facilement, je pense sans trop prendre de risques, transférer ces statistiques à notre pays. La vérité, c'est que l'avortement est le plus souvent employé comme un moyen de contraception a posteriori. C'est ça la vérité. Et pour toutes ces raisons, l'avortement devrait être considéré par les chrétiens comme une pratique fondamentalement immorale. Autant à cause de ce que la pratique implique, à savoir la suppression volontaire d'une vie humaine, autant à cause de cela qu'à cause des raisons qui le plus souvent la motivent. Et je sais bien qu'on pourra toujours imaginer des situations plus complexes que ça. Et Alex, s'il faut choisir entre la vie de la maman et la vie du bébé, comment tu fais ? Bien sûr qu'il y aura toujours des situations qu'on pourra imaginer comme ça. Mais ces situations sont tellement exceptionnelles qu'elles ne peuvent pas remettre en question le principe fondamental que l'on tire de l'Écriture sainte. L'avortement est un genre d'infanticide. Et j'en viens au dernier point. la question de la procréation assistée. On en parle beaucoup ces jours-ci, la procréation médicalement assistée, notamment en lien avec le débat sur le soi-disant mariage pour tous, puisqu'on parle d'ouvrir, alors ça ne fait pas partie du projet de loi, mais ça fait partie d'un autre projet de loi qui sera déposé dans quelques mois, on parle d'ouvrir l'assistance médicale à la procréation aux couples homosexuels, et c'est logique, puisqu'un couple homosexuel ne peut pas, par définition, engendrer. Donc pour engendrer, il faut bien une aide médicale, une aide technique. Le premier bébé éprouvette est né en 1978, au Royaume-Uni. Est-ce que vous voyez la corrélation entre toutes ces dates? 75, l'égalisation de l'avortement, 78, le premier bébé éprouvette, toutes ces choses qui se sont enchaînées après mai 68 et pendant cette période qu'on a appelée la révolution sexuelle. Tout cela sur fond d'idéologie libertaire. Je dois être libre de pouvoir faire ce que je veux de ma propre personne. Et si les moyens de faire ce que je veux existent, je peux les employer en toute légitimité, non? Puisque la médecine et le progrès de la technique permettent de faire certaines choses, pourquoi ne pas les faire si, dans la mesure où ça ne concerne que moi et ma personne? Aujourd'hui, depuis 1978, les choses se sont bien développées. Aujourd'hui, il existe des moyens divers pour remédier à l'infertilité d'un couple. Et ces moyens, comme je le disais, ces moyens médicaux se sont développés avec le progrès de la technique pour apporter une aide à des couples en souffrance en raison de l'impossibilité qu'ils auraient à faire des enfants. Ok ? C'est comme ça que c'est arrivé. Hein. À la base, donc, il y a un désir profond et puissant de faire des enfants. Et sans doute que beaucoup d'entre nous, nous pouvons nous identifier à ce désir, même si vous n'êtes pas encore marié, vous pouvez peut-être vous identifier à ce désir. Oui, faire des enfants, c'est magnifique, c'est formidable, c'est l'expression normale, pour ne pas dire peut-être ultime, de l'amour d'un couple qui décide de s'unir et de fonder une famille. Quoi de plus normal, quoi de plus beau? Et en fait, qu'on soit croyant ou non, il y a ce désir très fort d'enfantement qui est légitime. Il est légitime ce désir. Pour la simple et bonne raison que Dieu nous a créés pour ça. Il crée l'homme et la femme, il les bénit, il leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous ». Mais puisque nous vivons dans un monde déchu, comme je le disais tout à l'heure, il y a des dysfonctionnements. Parfois, ça ne marche pas. Parfois, ça ne marche pas en raison de tel ou tel problème. Et pourquoi pas, dans ce cas, aider le processus, remédier à ce dysfonctionnement si on en a les moyens. Voilà la question, pourquoi pas. Alors, l'Église catholique. L'Église catholique y est par principe opposée. Pour la même raison qu'elle est opposée à la contraception. Puisque l'Église catholique estime que la procréation ne doit jamais être dissociée de l'acte conjugal. D'accord ? Donc l'acte conjugal doit toujours impliquer la possibilité d'engendrer. Donc pas de contraception. Mais inversement, l'engendrement ne doit jamais résulter d'autre chose que l'acte conjugal entre un mari et une femme. Dûment marié. Si un couple est incapable de procréer, d'après l'Église catholique, ils doivent renoncer à ce désir. Ils doivent, il y a des choses ici tout à fait honorables auxquelles nous allons revenir. Ils doivent, pour ainsi dire, porter leur croix à la suite de Jésus-Christ et rendre grâce à Dieu malgré tout pour tout ce qu'il leur a donné. L'Église catholique présente bien sûr l'adoption comme un remède. Mais à cause de la position de l'Église catholique sur le caractère indissociable de la procréation et de l'acte conjugal, inévitablement, l'adoption va apparaître comme une filiation de second ordre. Émotionnellement. Pas sur le papier, bien sûr. Mais inévitablement, l'adoption va apparaître comme une filiation inférieure à l'idéal. Un moyen d'avoir des enfants inférieurs à l'idéal qui consiste à simplement avoir des enfants comme étant le fruit de l'acte conjugal. Un peu comme un pansement sur une plaie. On va revenir à tout ça dans un petit moment. Les chrétiens qui se fient à la Bible ont une approche un peu différente. Qui se fient à la Bible et qui se fient seulement à la Bible ont une approche un peu différente. Le problème de l'assistance médicale à la procréation, de notre point de vue à nous, ne réside pas d'abord dans la dissociation de la procréation et de l'acte conjugal, puisque ça on en a parlé dans le cadre de la contraception, mais le problème réside d'abord dans la technique elle-même. Et on revient aussi au même raisonnement que pour la contraception. La contraception pose problème, parfois, en raison de la technique elle-même. Ben là, de la même façon, la procréation médicalement assistée va poser problème en raison de certaines techniques elles-mêmes. Et le problème, c'est quoi? C'est que la plupart des techniques de procréation médicalement assistée produisent ce qu'on appelle des embryons surnuméraires. des embryons en trop, des œufs fécondés qui sont en trop. Des embryons qui ne seront pas implantés dans l'utérus de la femme. Et ça, c'est un problème pour deux raisons. Premièrement, parce que parmi ces nombreux œufs qui sont fécondés au laboratoire, on va réaliser ce qu'on appelle un diagnostic préimplantatoire. On va analyser ces embryons pour voir lesquels sont en meilleure santé que les autres. Vous voyez ? Lesquels ont des conditions optimales pour aboutir à des enfants qui vont naître. Et donc, on va faire une discrimination entre les embryons pour choisir les meilleurs avant de les implanter. Et là, on est pratiquement dans une forme d'eugénisme, où on fait une discrimination entre des êtres humains en raison de leur santé et de leur gène. Donc, c'est très grave. Donc déjà, c'est une première raison pour laquelle c'est un problème. La deuxième raison, c'est parce que aux embryons en trop, on réserve un sort qui porte atteinte à la dignité humaine. Parce que souvent, on va les congeler. Et dans certains pays, la recherche sur ces embryons est autorisée. Et on va porter atteinte, par ce moyen-là, à la dignité humaine. Et donc, dans la mesure où la PMA, procréation médicalement assistée, produit ce genre d'effet, je pense que les chrétiens doivent dénoncer cela. Mais il existe d'autres techniques, sans doute plus rares, qui ne produisent pas d'embryons surnuméraires. Certaines de ces techniques soulèvent quand même des problèmes. On peut se poser la question, par exemple, du recours à un donneur anonyme. Un homme qui donnerait sa semence de façon anonyme. Et on parle dans ce cas-là d'insémination artificielle hétérologue, où le donneur n'est pas le mari. Ça implique quoi ? Ça implique l'intervention d'un tiers dans la procréation au sein d'un couple. Certes, ce tiers n'a pas de visage, mais l'enfant aura son visage. Il aura ses gènes, il aura une partie de son visage. Qu'est-ce qu'on doit en penser ? Je ne sais pas. Il est intéressant de remarquer que dans l'Ancien Testament, lorsqu'un homme marié mourait sans avoir donné d'enfant à sa femme, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'histoire d'Onan, le frère du défunt devait, en l'occurrence, faire un don. Il devait faire un don à la veuve pour permettre au défunt d'avoir une descendance, comme dans l'histoire d'Onan qu'on a vu. Alors, il y a plusieurs choses à souligner quand même. Parce qu'on peut se dire, mais ça ressemble un peu, non, à une procréation assistée, ça. D'abord, ce don n'était pas anonyme. D'autre part, le défunt est mort. C'est pour ça qu'il ne peut plus avoir d'enfant. Et troisièmement, il y avait quand même un mariage entre la personne et le beau-frère. Enfin, en tout cas, dans l'histoire d'Onan, c'était le cas, hein. Et de plus, comme le donneur, d'après les règles de l'Ancien Testament, était censé être, idéalement, le frère du défunt, quelqu'un de la famille proche, le risque, dans les générations suivantes, de relations consanguines était faible. Parce que le cousin de l'un, c'était le cousin de l'autre de toute façon. Donc, on peut facilement retrouver les lignées, je ne sais pas comment on dit. Vous voyez ce que je veux dire ? Tandis qu'avec un donneur anonyme aujourd'hui, on ne sait pas à quoi s'en tenir. Et on a appris, par exemple, qu'un donneur, je ne sais pas où, là, aux États-Unis, avait eu, je ne sais plus les chiffres exacts, mais un truc comme 500 enfants, qui certains habitaient dans les mêmes régions, mais ils ne savaient pas qu'ils avaient les mêmes gènes. Vous voyez, on augmente les risques quand même de relations consanguines, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, vous voyez, il y a quand même des enjeux qu'il faut considérer, on ne sait pas ce qui peut advenir après. Il faut réfléchir à ces choses-là. Mais bref, la question est difficile, et je pense, franchement, que plutôt que d'essayer de faire ce que je disais tout à l'heure, de la casuistique, d'imaginer tous les cas possibles, est-ce que dans ce cas-là, ça serait possible, est-ce que ça serait juste devant Dieu, blablabla, je pense qu'il y a un remède bien meilleur que ça, auquel on va venir dans quelques instants. Mais avant ça, je veux quand même mentionner le fait qu'il existe aussi l'insémination artificielle homologue, ce qui revient à prendre la semence du mari, et de l'aider à atteindre l'œuf de la maman. Et donc dans ce cas-là, ce sont bien des cellules du mari et de sa femme qu'on aide simplement à se rencontrer par des moyens mécaniques. Et dans ce cas, j'ai du mal à voir où serait le problème en tant que protestant qui me fie à la Bible, contrairement à l'Église catholique qui a une position beaucoup plus stricte là-dessus. Mais voilà, existe-t-il un meilleur remède à l'infertilité que la procréation médicalement assistée? Moi, je suis persuadé que oui. Mais avant d'y venir, encore un peu de suspense, il y a un principe qui doit être souligné de manière très claire. L'enfant est un don, pas un dû. D'accord? L'enfant est un don, pas un dû. Oui, le désir d'enfant est légitime, on l'a dit. Oui, il peut être très très fort ce désir d'enfant. Et s'il est fort, c'est normal. C'est normal. C'est plutôt bien, c'est une bonne chose. Mais en aucun cas doit-on s'imaginer qu'on mérite d'avoir des enfants. Que cela nous est dû d'avoir des enfants. Les enfants, ce n'est pas quelque chose que nous fabriquons. Tiens, on va se mettre, toi et moi, à fabriquer un enfant. D'accord? Ça dit, on va fabriquer un beau chef-d'œuvre, un bel enfant. Non. Les enfants, ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique, c'est quelque chose qu'on reçoit. Et qu'on reçoit de qui? De celui qui les fabrique. C'est Dieu qui les fabrique. C'est Dieu qui les façonne. Et c'est la perspective biblique qu'on a vue dans le psaume 127 il y a quelques instants. Le désir exacerbé d'enfant doit donc être tempéré, peut-être parfois corrigé par cette perspective biblique, sans quoi le désir d'enfant risque de se transformer, peut-être malgré nous, inconsciemment, en droit à l'enfant, que l'on va se mettre à réclamer ou considérer que cela nous est dû. Et cela est contraire à l'Écriture. Et donc, quand on considère l'enfantement comme un privilège, comme un don, comme une grâce, ça devrait nous empêcher de nous plaindre lorsque nous sommes confrontés à l'incapacité d'en avoir. Vous voyez? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas douloureux. Comme une maladie peut être douloureuse, peut provoquer des souffrances. Et effectivement, l'infertilité, c'est un genre de maladie, c'est une anomalie dans notre condition d'être humain. Mais ce que ça veut dire, c'est que nous n'avons rien à réclamer, en fait, dans ce domaine. Et cette attitude des chrétiens face à l'infertilité, finalement, c'est celle de tout chrétien face à toute souffrance. Est-ce qu'on mérite de vivre en bonne santé? Ben non, on ne mérite pas de vivre en bonne santé. La grâce de Dieu nous suffit, comme Dieu l'a dit à l'apôtre Paul. Ma grâce te suffit dans ta souffrance. La grâce de Dieu devrait aussi nous suffire face à l'infertilité. Je sais que c'est plus facile à dire pour moi qui ai déjà quatre enfants, hein. Et c'est difficile de dire ça à quelqu'un qui est en proie à cette souffrance, et je le reconnais. Mais au désir d'enfant qui parfois se transforme en culte de l'enfant, il faut opposer le culte de Dieu. Il suffit de penser par exemple au récit du sacrifice d'Isaac à Abraham et à accepter, en principe, de sacrifier son fils Isaac qu'il a attendu si longtemps d'avoir. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux cite cet exemple d'Abraham et d'Isaac comme un exemple de foi authentique dans Hébreux 11. Il suffit de penser à ça pour voir que Dieu invite le croyant, par sa foi, en réalité, à un renoncement, et un renoncement total à soi, à ses aspirations, à ses désirs, à ses besoins même. On renonce à soi et on se fie entièrement à Dieu. C'est ça que ça veut dire quand Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit. Et à ce sujet, la croix de notre Seigneur Jésus a une importance suprême, puisque c'est par elle et par le moyen de la foi que le croyant peut en réalité mourir à soi-même, mourir avec Christ, à soi-même et au péché, et ressusciter avec lui pour vivre pour Dieu en Jésus-Christ. Et donc, à cette espèce d'idolâtrie vouée à l'enfant de ses rêves, mais la Bible présente comme remède la repentance et la foi au Fils de Dieu. Et c'est dans cette posture seulement que toute personne, stérile ou non, que pour toute personne, stérile ou non, l'affirmation de Jésus prend sens, à savoir la suivante. Celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Voilà des paroles bibliques qu'il faut intégrer, peut-être très difficilement, mais qu'il faut intégrer d'autant plus lorsqu'on est confronté à ce problème de la stérilité. Mais, une fois que notre attitude a été ainsi corrigée, je crois qu'il y a quand même un vrai remède à l'infertilité qui est malheureusement trop souvent sous-estimé, y compris par l'Église catholique, comme je le disais il y a quelques instants, et ce remède, c'est l'adoption. Ce remède, c'est l'adoption. Dans la Bible, les liens familiaux ne sont pas seulement définis par le lien héréditaire. C'est extrêmement important, c'est un élément extrêmement important de toute la théologie biblique en fait. Les liens familiaux ne sont pas seulement définis par le lien héréditaire, mais aussi par le rapport à l'autorité du chef de famille, le rapport à la maisonnée, au foyer. Et donc, c'est pourquoi tout mâle de la maison d'Abraham devait être circoncis, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de la part d'un étranger. Un lien tellement fort, parce qu'on appartient au foyer, à la maisonnée, tellement fort qu'il est plus fort que le lien héréditaire. Et donc on a d'autres exemples. Ruth, par exemple, choisit de suivre sa belle-mère Noémie plutôt que de retourner vers sa famille, au point où l'on dira d'elle, je cite, qu'elle vaut mieux pour Noémie que 7 fils. Il n'y a aucun lien biologique entre les deux. Joseph est considéré comme le père de Jésus dans le Nouveau Testament, bien qu'il ne lui ait transmis aucun de ses gènes. Pourtant, Joseph est bien nommé père de Jésus dans Luc 2, verset 33, par exemple. Et ce n'est donc pas non plus un abus de langage lorsque le Nouveau Testament dit des croyants, de vous et moi, que nous sommes les frères de Jésus. Pourquoi on ne partage pas de gènes avec Jésus ? Et on est ses frères pourtant parce que nous aussi sommes issus du Père. Nous sommes nés de sa semence qui est la parole de Dieu, sa parole qui a été implantée en nous. Ce n'est pas un abus de langage de dire ça, ce n'est pas purement métaphorique. L'Église catholique met en avant le lien censé être indéfectible entre l'enfantement et l'acte conjugal, mais la Bible précise quant à elle qu'il y a une dimension à la famille qui prime sur le lien de l'hérédité, c'est la dimension fédérale, l'appartenance à la maisonnée, d'être sous l'autorité d'un chef du foyer. Et quand on tient compte de cette dimension fédérale, eh bien l'adoption, la dimension fédérale de la famille, l'adoption revêt une valeur que l'Église catholique est incapable de lui donner. Alors même que l'adoption constitue, selon la Bible, une alternative parfaitement cohérente et satisfaisante à l'enfantement biologique. Et donc, c'est une réelle solution. Ce n'est pas une solution de second ordre. C'est une réelle solution pour les couples stériles. Autrement, est-ce que l'apôtre Paul pourrait dire aux croyants « Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père » ?» C'est juste une façon de parler. Une filiation de second ordre. Non, on n'est pas des fils de second ordre de Dieu. On est réellement des fils de Dieu à tel point que nous l'appelons Abba, Papa. Ça, c'est la force de l'adoption dans la Bible. L'enfant adopté, selon la Bible, est pleinement enfant de son père et de sa mère adoptif. Tout comme les croyants sont pleinement enfants de Dieu. Voilà pourquoi je pense que c'est un meilleur remède. Et un remède pleinement satisfaisant à la stérilité. Sachant qu'on ne doit quand même pas adopter parce qu'on penserait que cet enfant est notre droit ou notre dû, mais adopter pour donner à l'enfant un père et une mère qu'il a perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en même temps, le lien qui est ainsi créé est aussi réel, aussi valable que si l'enfant était né de l'acte conjugal. Alors, on va terminer. On a parlé en introduction de cette idéologie dominante aujourd'hui qui conditionne beaucoup de débats sur des questions de mœurs et de société, cette fameuse idéologie libertaire, il est interdit d'interdire, jouissez sans entrave, et on a pu parcourir un certain nombre de sujets cet après-midi relatifs à la sexualité pour essayer de discerner une éthique biblique de la sexualité. Et on a notamment cherché à appliquer ces principes éthiques à certaines questions contemporaines, la contraception, l'avortement, la procréation assistée. Et les grands principes qu'on peut retenir aujourd'hui sont les suivants. Sur un certain nombre de points, premièrement, la loi morale de Dieu est explicite et nous n'avons d'autre choix que de nous y conformer, en tout cas si nous avons remis notre vie à Jésus. Deuxièmement, dans les limites de la loi morale de Dieu, les chrétiens ont une vraie liberté, mais qui doit être soumise au principe selon lequel tout n'est pas utile. Nous ne devons donc pas nous laisser asservir par quoi que ce soit, nous devons respecter la conscience d'autrui, nous devons glorifier Dieu en toutes circonstances, bref. Nous devons nous examiner souvent et attentivement, notamment examiner nos motivations. Pour résumer, la Bible oppose à l'idéologie libertaire de notre temps ces deux versets bien connus sous la plume de l'apôtre Paul. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.